À voix nue, Caroline Brouet,
Robert Bobert. Tailleur, éducateur, potier, cinéaste, écrivain.
Troisième épisode, de Harpeau à Truffaut. Bonjour Robert Bobert.
Bonjour.
Ça n'est pas seulement une rime, hein, ce titre-là. C'est parce que vraiment, vous êtes passé de Harpeau à Truffaut et aller-retour, j'ai envie de dire, parce que Harpeau est constamment présent dans votre œuvre et dans votre vie. On va y venir. Mais avant de parler de Harpeau et avant de parler de Truffaut, un mot sur votre goût du cinéma. Jusqu'à présent, pour les deux premiers épisodes, vous nous avez parlé de votre goût pour le manuel. Vous êtes un travailleur manuel, vous avez été tailleur, vous avez été potier essentiellement. Goût pour les films, goût pour le cinéma, qui est venu tôt. Vous nous en avez déjà parlé dans un épisode précédent. Vous disiez, j'allais souvent au cinéma, je me précipitais au cinéma. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers films au cinéma? Quels sont ceux qui vous ont marqué? Ça, est-ce que c'est un souvenir vivace?
Non, malheureusement, c'est une question que je me suis posée parce que Perec, dans un de ses bouquins, il parle d'un film qu'il a vu à un âge où je me souviens plus quel film j'ai vu. Je peux pas vous dire quel était le premier film. C'est pendant la guerre, mais à un moment donné où on avait encore le droit d'aller au cinéma, puisqu'à partir du moment où on avait l'étoile jaune, c'était terminé. Et je crois que c'était Le Carrefour des Enfants Perdus, mais j'avais déjà vu d'autres films avant. Mais celui-là m'a marqué parce qu'il y avait une comédienne qui s'appelait Louise Carletti, et à 10 ans, j'étais amoureux de Louise Carletti. Mais je pense pas que ce soit à cause d'elle que j'ai aimé le cinéma. En fait, j'ai aimé la photo d'abord. Je me suis rendu compte un jour que j'aimais une photo, alors que sur la photo, je ne connaissais personne. Et j'ai réalisé qu'on peut aimer donc une image, pas parce qu'elle renvoie un souvenir de vacances, etc., mais parce qu'il y a quelque chose en plus. Et j'ai commencé à regarder les photos. Et puis, j'ai un goût comme ça, des choses un peu anciennes. J'ai vu 14 juillet de René Clair.
Film de 33.
Voilà. Donc, je ne l'ai pas vu
en 33. Et vous ne l'avez pas vu en 33.
Non, je l'ai vu après, je ne me souviens plus où. Et je voyais ce que j'aimais dans la photo, qui en plus racontait une histoire. Alors depuis, je sais que les photos aussi racontent des histoires. Et quelque chose qui ne ressemblait pas aux films américains que j'aimais bien, tous les films d'aventure, mais dont je me sentais proche. Les ruelles, la musique, c'était une musique de Maurice Jobert, mais je ne savais pas qui était Maurice Jobert à l'époque, bien sûr. Et il y avait quelque chose qui m'attirait là. Et depuis, je me suis dit, il faut que je revoie les films qui ont été faits avant. Alors, je ne sais plus par qui j'ai su qu'il y avait le Champollion, peut-être par des copains.
Le Champollion qu'on appelle, enfin, qui s'appelle maintenant le Champo, c'est un cinéma du Quartier Latin, pas très loin du studio des Ursulines, que vous fréquentiez aussi beaucoup.
Oui, oui.
À Paris.
Donc, voilà. Et j'ai vu les films de cette époque qui me renvoyaient finalement à l'enfance, avec les copains, quand on allait dans la rue, voilà, il y a quelque chose qui n'était pas dans le domaine de l'exceptionnel, il n'y avait pas des grands voyages. Je restais dans mon quartier, voilà. Et j'ai commencé donc à m'intéresser à ce cinéma. Mais comme spectateur, bien évidemment, je ne pouvais pas, avec la vie que j'ai eue avant, je finissais par reconnaître les... sans savoir comment ça s'appelle, les panoramiques, les travelling, etc. Mais j'aimais ça en tant que spectateur, parce que je ne pouvais pas imaginer que je ferais un jour des films. Alors qu'un étudiant peut se dire, je vais faire des études de cinéma, à l'époque c'était l'IDEC, etc., je ferai du cinéma plus tard.
Moi, l'ancêtre de la Fémis.
Ça ne pouvait pas rentrer dans ma tête. Voilà, j'étais content d'être spectateur.
Alors, il y a des films que vous avez beaucoup aimés. Vous avez parlé de 14 juillet, de René Clair. Casque d'or aussi, Jacques Becker, 1952, Simone Signoret, Serge Reggiani.
Oui. Mais Casque d'or, pour moi, est un des plus grands films d'amour de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que les plus grands films d'amour, ce sont des films où les amours sont écourtés. Casque d'or se termine par Régénie qui passe sous le...
Chut, ne dites pas, il y a des gens qui ne l'ont pas vu.
Voilà. Et puis, Jules et Jim, c'est le cas. Le temps de l'innocence, Madame II...
Madame II qui est de Max Ophuls.
Max Ophuls.
Qui doit être votre cinéaste préféré.
Qui est mon cinéaste préféré.
Qui est resté tout au long de votre vie.
Oui. Toujours.
Alors pourquoi
toujours.
Pourquoi vous aimez autant? Alors il y a Madame II. Oui. D'abord parce qu'il y a votre
Madame
idole.
Madame II, pour qui est pour moi le plus grand film d'amour de l'histoire du cinéma.
Bon, Madame II. Parlez-nous de Madame II.
Alors Madame II. Madame II, c'est. Voilà, j'en avais jamais vu. Un couple, voilà, qui se rencontre et qui sont faits pour se rencontrer. Et dès leur première rencontre, ils sont amoureux l'un de l'autre. Or, il se trouve que Madame II, elle est mariée avec un monsieur et que ça ne se passe pas très très bien à cause de ça. Voilà, donc c'est... Mais c'est un film... Il y a des films qui se racontent pas, qu'il faut voir. Madame II, j'ai dû le voir, je sais pas, 30 fois. Il y a quelques films que je vois entre 20 et 30 fois. Et il n'y a aucune raison qu'on ne revoie pas des films autant de fois qu'on écoute une musique.
Et vous n'êtes pas déçu à chaque fois?
Non.
Le temps n'a pas fait
non,
son office de ce point de vue-là.
Quand il faut pleurer, je pleure. Quand il faut rire, je ris. Voilà.
La Ronde, vous l'avez vue combien de fois?
La Ronde
Robert
aussi. Moins souvent...
Moins souvent que Madame II.
Je mets de Fuls, Lettre d'une inconnue et Madame II au-dessus des autres. Le plaisir. Alors, La Maison Tellier également, avec Daniel Darieux, qui chante Combien je regrette mon bras si dodu. Ben, j'aurais bien fait. Et Le bon temps perdu. C'est une séquence qui n'est pas dans le texte de Maupassant. C'est ça qui est formidable. Ophuls, c'est celui qui a le mieux filmé Maupassant. Et il a rajouté cette scène. Une scène où Rivet, qui est le nom que porte Jean Gabin dans le film, invite les dames d'une maison close. Parce que sa sœur dirige une maison close à une communion. Et le sentiment de pureté qui se dégage de cette communion gagne toutes les dames de cette maison. Et à la fin de la communion, Jean Gabin doit ramener toutes les dames à la gare, parce qu'il ne faut pas rater l'ouverture tout de même de cette maison qui est close dans tous les sens du terme pendant la communion. Et comme il était un peu saoul, il a voulu, voilà, il a un petit peu violenté Daniel Darieux. Et avec Maupassant, ils vont à la gare, et ça se termine comme ça. Alors que là, ils s'arrêtent pour cueillir des fleurs. Et c'est là où Daniel Darieux chante. Et Jean Gabin, et tout, il est honteux, il est assis dans l'herbe. Et quand elle passe, que Daniel Darieux passe à côté de lui, qui cueille des fleurs, et dit, faut m'excuser, Madame Flora, tout à l'heure, j'étais un peu fou, j'avais bu. « Faut vraiment m'excuser. » Et elle lui dit merci. Et c'est un merci comme je ne l'ai jamais entendu. Un merci qui fait venir les larmes. Parce que peut-être pour la première fois de sa vie, un homme s'excuse. Elle n'a jamais entendu un homme s'excuser. Et c'est le miracle. Voilà, c'est ce que Max Ophuls réussit à faire. Il a un amour des femmes... que peut-être aucun cinéaste n'a.
Et il y a Harpo, donc. Je ne sais pas si c'est l'image homme fragile, Harpo, mais...
Harpo, j'ai toujours des copains avec
Harpo,
lui.
C'est vraiment une figure récurrente. Hein, dans,
ah oui, ça je me dis, bon, pour qu'il soit là.
Harpo Marx, donc c'est l'un des Marx Brothers.
Je peux raconter n'importe quelle histoire, je me range à ce qu'il soit là, et quand il est là, ça paraît tout à fait normal qu'il soit là.
Dès votre premier film,
le film
Cholem Alechem, écrivain de langue yiddish, il est là. Et il est là dans plein de livres.
Ouais. Cholem Alechem.
Il y a même un livre dans lequel vous vous demandez, vous tentez de comprendre sa présence. Donc, Harpo.
Oui, mais je peux utiliser des séquences à l'intérieur d'un texte, et ça marche à chaque fois. un écrivain de langue yiddish, on ne s'attend pas à ce qu'il y a Harpo. Même, ce n'est pas parce que Harpo est juif qu'il est là. C'est qu'à un moment donné, il est poursuivi par des gens sur les toits de New York. Et des types qui en veulent à sa peau. Et sur les toits, il y a une publicité pour les cigarettes, pour les cigares, je ne sais plus. Il y a de la fumée. Et il récupère la fumée et il se tourne vers celui qui après, et il recrache la fumée. Et c'est toute sa vie qui recrache. C'est celui qui est... C'est celui qu'on veut tuer, il récupère le mal pour le renvoyer à ceux qui lui font du mal. Donc, quand je parle des Juifs qui sont menacés, je mets ça, et ça marche. Et donc, quel que soit le film que je fais, non, pas toujours dans les films, mais plusieurs fois dans les films, avec un film sur Jean Tardieu, j'ai mis ça également, un mot pour un autre, voilà, un mot pour un autre avec quelqu'un qui est muet, c'est formidable. Puis aussi, comme dans mes livres, je raconte des choses qui ne sont pas toujours très drôles, à un moment donné, je sens que j'ai besoin de légèreté. Et c'est comme si je téléphonais à Harpo et qu'il me posait le signe qu'il arrive. Il arrive et il tombe très bien à chaque fois. Voilà. Donc c'est quelqu'un de très précieux. Quand il raconte, ses souvenirs.
Dans Harpo et moi.
Dans Harpo et moi, comment il adopte tous ses enfants. Je l'ai fait lire un jour à Podalydès pour une carte blanche.
Denis Podalydès, l'acteur.
Denis Podalydès, voilà. Il l'a lu. Il me dit, j'ai failli ne pas arriver au bout. Voilà. C'est un tel miracle. Il raconte aux enfants, tous les jours avec sa femme, comment les enfants, les uns après les autres, ont été adoptés. Ça tient du miracle.
Donc inutile de vous demander combien de fois vous avez vu les films des Marx Brothers.
Oui, je ne sais pas, je n'ai pas compté.
Vous n'avez pas compté là, vous ne les comptez plus.
Je n'ai pas compté.
Alors racontez-nous, Robert Bobert, comment vous vous êtes retrouvé l'assistant de François Truffaut. Oui. Je précise quand même que cette rencontre, vous l'avez longuement racontée dans On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux,
oui,
alors, livre paru en 2010. Oui, alors, mais j'aimerais bien que vous nous la racontiez de vive voix.
Oui, je ne sais pas comme c'est un roman, je ne sais pas si je raconte tel que ça ne s'est pas
fait. Figurez-vous, c'est bien pour ça que je vous demande de me la raconter en vrai.
Donc voilà, je la raconte en vrai, comme disent les enfants. Il s'est retrouvé, donc, après le service militaire, je ne sais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, il faut que je travaille. J'avais vu les petites annonces, on demandait des gens pour travailler dans un grand bureau. Et... alors là, c'est le boulot, vraiment, je m'emmerdais, hein, de celui-là. Et j'étais là, et je me dis, bon, pour le moment, j'ai ma paye à la fin du mois, mais il faut que je fasse autre chose. Et je continue à aller au cinéma, et je lis, un jour, que Truffaut cherche des enfants de 13 ans pour un film qui va tourner.
Une petite annonce.
Une petite annonce, voilà. Alors, je dis, bon, il cherche des enfants, qu'est-ce qu'il va s'occuper des enfants? Il va peut-être avoir besoin de quelqu'un. Alors, je lui ai écrit une lettre. Je me suis poussé à écrire une lettre parce que je me suis dit, comment il va me recevoir, j'en sais rien. Et j'avais pas de réponse au bout de 15 jours. Et je voulais tellement, je me suis dit, c'est une chance pour moi formidable. Et je vais le voir, je lui dis, excusez-moi,
Vous allez le voir, comme ça.
Ouais, à la maison de production. Okay. Voilà. Et je lui dis, j'ai écrit une lettre, il dit, oui, je me souviens très bien, mais c'est très bien, mais j'ai pas besoin de quelqu'un parce que j'ai un assistant, c'était Philippe Dobroca, l'assistant. J'ai un deuxième assistant, j'ai un régisseur, ça va se passer très très bien, voilà. Bon. Et puis, tant pis, merci. Puis il me rappelle, lui, attendez, puisque vous êtes éducateur, lisez le scénario. Parce que je me rends compte qu'il n'y a que des gens de cinéma qui l'ont lu. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'extérieur qui le lise. Alors j'étais descendu à l'escalier, déjà je tournais les pages. J'avais un scénario, c'était miraculeux. Et on s'est donc revu la semaine d'après. Et je lui ai dit ce que j'en pensais. Bon, j'en pensais du bien. Et on a parlé de la manière dont les enfants étaient traités au cinéma, comme des petits adultes, etc., que j'aimais pour ça. Et on a parlé de Zéro de conduite de Jean Vigo.
Il faut préciser que le scénario que vous avez lu, c'est celui des 400 coups. Hein. On parle là du film des 400 coups.
Des 400 coups. Et puis donc, donc il dit bon, merci, au revoir. Puis, j'ai bavardé deux fois avec un metteur en scène. Et puis, je sais pas, 15 jours après, je reçois un coup de fil. Et il me dit bonsoir, c'est François Truffaut. C'est vous qui avez raison, j'ai besoin de vous, venez demain matin. Alors je dis demain matin, c'est pas possible, mais après demain matin, oui, juste le temps de me faire porter malade. Voilà. Donc je suis arrivé, déjà avec la fièvre. Au point que le chef de service me dit, oh, ça va pas du tout. Rentrez vous coucher, hypocritement, je disais, non, je vais tenir le coup, alors que je savais très bien où je serais le lendemain. Ce qui prouve qu'on peut se donner la fièvre quand on veut. Voilà. Il faut de bonnes raisons aussi.
S'il y a des enfants qui nous écoutent, prenez-en de la graine.
Et donc, je suis venu après le surlendemain. Et son problème, c'était qu'il ne pouvait pas tourner avec deux enfants ou un prof avec un enfant. Tous les autres chahutaient tellement dans la cour. Et Dobroka, c'était pour son boulot. Il ne savait pas quoi faire. Il disait, bon, taisez-vous. 20 secondes. Et j'ai dit... On va tous au préau. Et dans le préau, j'ai fait ce que j'avais appris à faire, les jeux de mime, tous ces trucs-là, le silence complet. Et au point que Dobroka est arrivé à un moment donné, il dit, j'ai besoin de... Et là, c'est rendu compte, c'était le silence. Et il me dit, j'ai besoin de la première rangée, voilà. Et donc, il s'est passé 15 jours... Donc, la journée s'est passée très très bien. Le soir, Truffaut, il me dit, je suis très très content, Philippe... Non, Dobroka m'a dit que c'était formidable. Et il dit, ça vous intéresse de voir les roches de ce qu'on a tourné hier? Je dis, oui, bien sûr. Il dit, montez dans ma voiture. Voilà. Et le premier jour de tournage, je suis dans la voiture du metteur en scène. Et ça ressemblait à un conte de fées. Et voilà, c'était pour moi, c'est une journée miraculeuse. Et j'ai fini le film, à m'occuper des enfants. Un peu frustré tout de même, parce que quand j'étais dans le préau avec les enfants, je savais pas
ce qui se passait.
Moi, je voulais savoir comment on tournait. Voilà. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un preneur de son, qu'il y avait une perche, etc. J'avais jamais vu ça avant. Et à la fin du film, il dit, écoutez, bon, je vois que le cinéma vous intéresse. Quand je ferai le prochain film, je vous prendrai comme assistant. Et donc, je suis devenu deuxième assistant pour Thierry, c'est le pianiste.
Il a tenu sa promesse.
Oui. Il a tenu sa promesse.
Deux ans après, ou un an après, hein, tiré sur le pianiste. Et Juliette Jim en 62.
J'ai compté les jours jusqu'à ce que... et puis voilà, donc, tiré sur le pianiste. Et puis Juliette Jim, comme il savait que j'étais un baladeur dans Paris, j'ai fait tout le repérage de Juliette Jim. C'est ce que je raconte dans Pas plus dormir tranquille.
Où il y a aussi, alors il faut dire dans ce livre, on ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. C'est bien ça, hein, oui, quand on a une fois ouvert les yeux. Il faut dire que vous mettez en scène Robert Baubert, un narrateur qui est comme un double littéraire. Il s'appelle Bernard Applebaum, mais il est engagé comme figurant sur un film de Truffaut grâce à un certain Robert, voilà, qui a été son moniteur de colonie. Oui. Mais sur ce brouillage du réel et de la fiction, on en parlera dans l'épisode suivant si vous le voulez bien, mais j'aimerais que vous nous parliez de ce tournage, des moments de tournage dont vous vous souvenez. Vous mettez même des feuilles de service dans ce livre, il y a la feuille de service. Tiens, je ne résiste pas au plaisir de la lire si vous me le permettez. Page 43 de On ne peut plus dormir. Point de suspension.
C'est la vraie feuille de service.
Ah bah c'est ça la question. Comme il était prévu que je revienne, c'est pas vous qui parlez, c'est Bernard Applebaum, votre double littéraire, le narrateur. Comme il était prévu que je revienne le lendemain, puisqu'il est figurant, Robert m'avait remis une feuille de service comme à chaque membre de l'équipe de tournage. Film, Juliette Jim. Journée du mercredi 3 mai 1961. 19e jour de tournage. Horaire, 9h-18h. Lieu de tournage, Café Victor, Impasse Compense. Métro, Place des Fêtes. Tel, alors je sais pas comment on disait, BOT, BOT, on disait comment? Bot.14.99.
Botzaris.
Voilà. Et puis les numéros des plans à tourner et le nom des acteurs. Seule Jeanne Moreau devait être prévenue par téléphone. Pour les autres, c'était comme pour les figurants. 9h, prêt à tourner. C'est comme ça que ça se passait ?
Oui, oui. Oui. Alors ça, c'est la vraie feuille aux abysses. Hein. C'est la photocopie.
Elle est reproduite.
Telle qu'elle. Elle est reproduite. Ce qui m'amusait en même temps dans ce livre, c'est que moi, Robert Bobert, j'intervenais dans un roman où quelqu'un d'autre parlait à la première personne. Et j'ai toujours aimé ce mélange de réel et d'imaginaire. Ça trouble tout le monde. Quand je tourne mes films ou quand j'écris, j'ai toujours besoin de tout vérifier. Je crois que c'est dans celui-là où je parle du cercle d'hiver, que Bernard monte sur le toit du cercle d'hiver. Je suis vraiment monté sur le toit du cercle d'hiver. J'ai pris contact avec les Bouglione qui dirigent le cirque. J'ai expliqué ce que je voulais, tout ça. Et je suis monté sur le toit du cercle d'hiver. J'avais besoin de vérifier que, à partir du toit, on pouvait aller là où habitait la famille de Bernard. J'ai fait le trajet. Une fois que c'est fait, je peux y aller. Et quand je raconte tel jour il neigeait, tel jour il pleuvait, tel jour tel film est sorti, on peut vérifier. C'est pourquoi les gens sont toujours troublés, ils se demandent toujours si ce que je raconte, si c'est vrai ou pas. Je dis, c'est pas toujours vrai, mais j'espère que c'est toujours juste.
Absolument.
Parce que le contraire du faux n'est pas, c'est pas le vrai, c'est le juste.
Comment il était, François Truffaut, Robert Bobert, sur les tournages ?
Il était très proche des acteurs, beaucoup plus proche des acteurs que des techniciens leur demandaient, etc. Bon, non, ça se passait plutôt bien. S'il m'a demandé de continuer les deux autres films avec lui, c'est qu'il était plutôt content, alors que ça aussi, c'est un métier que j'ai appris en le faisant. Mais vraiment, parce que j'avais pas fait l'IDEC ni rien du tout. Et si je suis rentré à la télévision, c'est que petit à petit, et c'est même en même temps le goût pour la photo, j'avais envie de faire des documentaires. À l'époque, il n'y avait pas de documentaires au cinéma. Maintenant, il y en a, mais voilà. Pour faire des documentaires, il fallait rentrer à la télévision. C'est ce que j'ai fait.
Vous étiez plus attiré par le documentaire que par la fiction, pour oui. Prolonger la discussion sur réel et...
Pas en tant que spectateur. En tant que spectateur, j'aime bien la fiction. Mais à faire, j'ai besoin d'être avec les gens. Et j'aime les gens, comme on dit. Et voilà, j'ai besoin d'être avec eux, d'aller là où ils vivent. Voilà, c'est une curiosité que j'ai, que ce soit des gens connus ou pas. Puisque j'ai fait un film avec des tziganes, voilà, ce qui m'intéressait, c'était la relation qui s'établissait entre une équipe de tournage et un groupe, une communauté. Et là aussi, il y a un échange de regards. Et il y a un plan qui est un des plans que je préfère de tout ce que j'ai fait. Non pas parce que c'est un plan de qualité, mais qui raconte exactement ma position par rapport aux gens que je filme. J'avais dit à l'équipe, vous êtes co-auteurs de ce film. On est un groupe. On est venu avec une camionnette dans un camp. Et c'est le seul film que j'ai... dont j'ai fait le montage dans l'ordre du tournage. Parce que ce qui se passait un jour ne pouvait pas se passer la veille. Et ce qui se passait donc le lendemain a pu se passer que parce que la veille, il s'était passé quelque chose. Et à un moment donné, il y a un môme, il avait une quinzaine d'années, il avait une perche, un bambou comme ça, très très long, et il faisait l'équilibre comme on s'amuse à faire, voilà. Et le preneur de son voit ça, et avec sa perche, avec le micro au bout, il le met là, et il fait la même chose. Et j'ai dit, le peintre, tu tournes ça absolument. Et c'était le cadeau. C'était dire qu'on était ensemble. Cette relation que je recherchais était donnée par ce plan. Alors la moitié des gens n'ont pas compris ce que je racontais, mais pour moi c'était important. Et c'est un plan muet. On m'a dit, mais pourquoi il n'y a pas le son ? Je dis, parce que le micro, il est à 3 mètres au-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre comme son ? Et on m'a dit, mais au mixage. Mais au mixage, c'est un son qui aurait été mensonger. Il fallait que ce plan soit muet, qu'on n'entende rien.
Dans ce plan, il y a du Harpo. Est-ce que dans ce plan, il y a du Truffaut? Est-ce que Truffaut vous a appris, d'une certaine façon, le métier que vous allez faire après?
Alors, non. Dans ce plan-là, il y a... Non. Harpo, je crois pas.
Bah si, il est muet. Est muet, il est en équilibre.
Oui.
Il y a un peu de Harpo.
Mais j'ai pas pensé à Harpo, en tout cas.
C'est moi qui le dis.
Et Truffaut, alors j'ai eu... Il avait dit un jour où j'avais lu qu'il aimait pas les documentaires. Et quand j'ai tourné, je me suis dit un film que j'aurais bien aimé lui montrer, parce que c'est un film d'auteur, c'est Réfugié provenant d'Allemagne. Et je me suis dit, merde, il aime pas les documentaires, je vais pas lui montrer ça. Et après sa mort, j'ai parlé avec sa femme, Madeleine Morgenstern, donc sa première femme, qui a lu, donc, on pouvait dormir tranquille avec une loupe, parce qu'elle a un problème des yeux. Donc elle a lu tout le livre avec une loupe. Elle m'a envoyé donc une lettre, une très longue lettre. Et puis, elle m'a dit, mais téléphonez-moi, parce que j'ai du mal à lire. Et on s'est appelé, on a eu un coup de téléphone d'une heure. Et elle aussi, elle était cachée pendant la guerre. Elle dit, on aurait pu parler avant. Et elle dit, c'est dommage que vous n'ayez pas montré ce film à François. Elle dit, je crois qu'il l'aurait aimé. En tout cas, j'aurais pu, à travers ce film, lui dire des choses que je ne disais pas, parce qu'il a vécu quelque chose de complètement différent. Et tous les deux, le film de Truffaut qu'on aime le plus, c'est La Chambre verte. Voilà, c'est le film de Truffaut que je préfère, et elle aussi.
Pourquoi?
Je ne sais pas si c'est leur relation aux morts, j'en sais rien. J'ose pas trop gratter. Mais voilà, c'est celui qui me touche le plus.
Merci, Robert Bobert. On se retrouve pour l'épisode 4 des films sur mesure. On parlera de votre façon de filmer, des rencontres que vous avez faites pour la télévision, Pierre Dumayet d'un côté, et on parlera bien entendu de Georges Perec. À demain.
À demain. Il n'avait pas compris que même sur un écran noir, on pourrait continuer à entendre le vent, la pluie, des rires, des chants, les oiseaux, les sirènes des ambulances et les mots, à condition d'écouter.
C'était À Voix Nue avec Robert Bobert, réalisation Louise André, prise de son Michael Simon, chargée de programme Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.